I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Est-ce que comme moi, vous êtes souvent à la recherche de livres inclusifs pour vos enfants? Des livres où le personnage principal pourrait leur ressembler? Des livres avec des personnages racisés? Des livres loin des stéréotypes? Des livres non genrés? Si oui, vous savez qu'habituellement, ça nous prend beaucoup de temps d'aller de librairie en librairie pour essayer de trouver des livres inclusifs afin d'étayer notre bibliothèque et la diversifier. Alors, quand j'ai appris que les enfants du Bruit de l'Odeur allaient ouvrir une boutique en ligne avec une sélection de livres inclusifs pour les enfants, adolescents et les adultes, que Ulrich et Priska ont pris le temps de choisir, de lire, de vérifier les contenus des livres pour ne pas que nous achetions des livres problématiques avec des imaginaires de notre siècle, je me suis dit qu'il fallait que je vous le partage. Je peux quand même pas garder cette bonne nouvelle pour moi. Alors rendez-vous sur la boutique en ligne, lesenfantsdubruitdeleodeur.com.
Quand je serai grande, je serai astronaute. Moi, quand je serai grande, je serai astronaute.
Lors de cet épisode, vous entendrez le mot tamazight. Le tamazight est une langue berbère, l'une des langues parlées au Maroc, et plus particulièrement dans la région du Rif. Les autres langues sont la darija et l'arabe. L'arrivée des premiers Marocains en France date du 8e siècle. Mais c'est lors de la Première Guerre mondiale que commence l'immigration marocaine, avec l'enrôlement par la France de 40 000 soldats marocains pour l'effort de guerre. Dans les années 30, la France fera appel aux travailleurs marocains dans les mines et l'agriculture. S'en vint alors la Seconde Guerre mondiale, durant laquelle 85 000 soldats marocains feront partie des troupes françaises. Le Maroc arrachera son indépendance le 2 mars 1956 et entre-temps, la France aura de nouveau besoin de la main-d'œuvre, essentiellement masculine, pour la reconstruction du pays après la guerre. Et c'est dans les années 70 que commencera le regroupement familial. Nous vous avons fait cette petite aparté, car nous allons maintenant à la rencontre de Fatima Wassak, autrice du livre « La puissance des mères ». Elle est aussi la porte-parole du Front des mères et coordinatrice du réseau Classe Genre Race qui lutte contre la discrimination à l'encontre des femmes descendantes de l'immigration postcoloniale. Née justement au Maroc, dans la région du Rif, elle grandit à l'île Sud. Nous aborderons son enfance heureuse et insouciante, l'importance de l'école au sein de la famille, afin de se soustraire à la condition ouvrière, et la dichotomie entre l'école et la sphère familiale, et de l'importance d'être à l'aise avec nos héritages.
Moi, quand je serai grande, je serai astronaute.
Fatima Wassak, bonjour.
Bonjour.
Contente de t'accueillir sur le podcast Les Enfants du Bruit et de l'Odeur. C'est un honneur pour nous. Merci.
Merci pour l'invitation. Je suis honorée aussi d'être là.
Est-ce que tu pourrais te présenter ?
Je suis Fatima Wassak, comme tu l'as dit. Je suis porte-parole du Front de Mer. Je suis également coordinatrice d'un réseau qui s'appelle Réseau Classe Genre Race. Qui est un réseau de mise en lien entre des acteurs institutionnels, militants, associatifs autour de la question des discriminations que subissent les femmes descendantes de l'immigration postcoloniale. Il se trouve que je milite aussi à Bagnolet dans un collectif de mères. Je pense qu'on va en parler.
Oui.
Je suis consultante de métier. Voilà ce que je peux dire en quelques mots.
Tout ça. Et en plus, tu es auteure, écrivaine.
Ouais, absolument. Voilà.
D'un livre qui s'appelle La puissance des mères, qui vient tout juste de sortir.
Ouais, avec un beau sous-titre aussi, pour un nouveau sujet révolutionnaire.
Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu étais quand tu étais petite ? Comment était Fatima Wassak petite ?
Oh, j'étais une enfant plutôt heureuse, joyeuse en tout cas.
Voilà,
moi, je suis née au Maroc, dans le Rif, mais je suis arrivée bébé. Et j'ai grandi à l'île Sud, dans un quartier... de l'immigration, vraiment. Oui. C'était un quartier, c'est toujours un quartier situé près d'une usine.
D'accord.
Où travaillaient à l'époque, c'est-à-dire dans les années 70, 80, jusque dans les années 90, des milliers d'ouvriers. Et j'ai grandi là, entourée d'immigrés, voilà, d'immigrés d'Afrique, mm-hmm. pour l'essentiel. Et il y avait aussi, encore une immigration espagnole, portugaise, mais voilà, donc dans un lieu d'immigration où il y avait beaucoup de langues, beaucoup de... Et on jouait beaucoup dehors.
Oui.
Alors, notamment parce que moi, j'habitais en HLM et on mm-hmm. était beaucoup. Voilà, mm-hmm. Moi, j'ai toujours 7 frères et sœurs.
Oui.
Et il y avait toujours du monde en plus de mes frères et sœurs. Voilà, il y avait la famille aussi de ma mère, de mon père, de temps en temps. Oui. Donc, on était un petit peu serrés, quoi. Et donc, il y avait pour nos parents, en fait, le rappel qu'il fallait rester dehors le plus longtemps possible. Donc, moi, je faisais partie des filles du quartier qui, lorsqu'elles voulaient rentrer à un moment donné, parce que fatiguées, quoi.
Oui, oui.
Et en fait, je sonnais pour rentrer, quoi.
Oui.
Et mon père qui me disait, mais va faire encore un tour, va faire encore un tour. Et je restais super tard, parfois le soir, hein,
oui.
avec aussi les frères et sœurs, les copines, les copains du quartier, quoi. Donc, oui. J'ai beaucoup joué, en fait, dehors. Ça a été vraiment... j'ai vraiment une grande nostalgie par rapport à ça, par rapport... vraiment, j'ai passé beaucoup de temps dehors. Mais encore une fois, hein, c'est aussi pour des raisons de promiscuité, en fait. On était dans des appartements vraiment très petits,
petit, hein.
pour 10-12 personnes. Il y avait 2-3 chambres. Et donc, il y avait... Oui, de toute façon, c'était pas tenable, en fait, de rester aussi nombreux à la maison.
Au sein d'un tout petit...
Donc, mais du coup, voilà, c'est ça. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pu grimper aux arbres. Je faisais du vélo, du roller. Enfin, voilà, c'était vraiment, vraiment bien.
D'accord. Et du coup, au niveau de l'école, est-ce que tu as eu déjà des comportements racistes, toi, quand tu étais petite? Ça se passait comment?
Alors, quand j'étais petite...
C'était dans quelles années à peu près? Parce que tu me
parlais
des années 80.
Années, ouais, fin des années, alors maternelle, ouais, c'est les années 80. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé l'école. Ça s'est vraiment bien passé, au sens où... alors, évidemment, j'y ai subi des discriminations, des humiliations, notamment du fait que je sois une fille, une femme arabe, musulmane. Donc, il y a des choses, évidemment, qui se sont passées, que j'ai pas complètement conscientisées. Et c'était pas quelque chose qui m'a... que j'ai vécu comme des agressions, en fait. Bon, déjà, il y a une chose que je dois dire, c'est que moi, je finissais pas vraiment à 4h30. Mon père, donc ouvrier, qui lisait pas le français, qui n'écrivait pas le français, qui connaissait pas l'école, en fait, le système scolaire, quand même se saignait, parce que, alors, voilà, c'est un ouvrier de nuit, ma mère travaillait pas, enfin, en tout cas, elle avait pas un travail salarié. Et puis, je t'ai dit, hein, beaucoup d'enfants. Il se saignait pour qu'on aille à l'étude. Donc, ça durait une demi-heure, de 4h30 jusqu'à 5h. Et donc, mes devoirs étaient faits. Et ça, c'était vraiment... ça, je me rends compte, avec du recul, à quel point c'était important. Mais en fait, j'avais aussi cette possibilité de revenir le lendemain matin à l'école et de ne pas être considérée comme la cancre ou le cancre parce que les devoirs étaient faits. Et vraiment, ça m'a vraiment beaucoup aidée dans ma scolarité, le fait de pouvoir, comme ça, faire ses devoirs. Voilà, en sachant qu'à l'époque, c'est très important, les devoirs. Alors ensuite, ça a évolué, hein, les devoirs étaient même considérés comme plus obligatoires. Voilà. Même on encourage aujourd'hui les enseignants à ne pas te donner. J'ai eu aussi la chance de bien réussir à l'école. Donc j'avais des
bonnes notes.
Ouais, très bonnes notes et j'étais première de la classe. Il y avait cette fierté aussi, je crois, chez mes parents. Du coup, il y a eu un effet domino, en fait. Comme j'avais de bonnes notes dès le plus jeune âge, j'étais encore plus encouragée, je crois, que mes frères
à
et sœurs
maison,
à réussir à l'école, en fait, parce que je voyais mon père notamment qui était fier de sa fille. On rentrait au pays, il disait à tout le monde, elle est première de la classe, parce que les notes en tant que telles, c'est pas ça le plus important. En réalité, c'est le fait que j'ai
première de la classe,
première. Elle est première, mais elle est même devant les Français. Donc il y avait ce truc là très très valorisant, en fait. Donc, j'avais quand même cette valorisation à la maison du fait de la scolarité. Quelles que soient les petites humiliations qu'il pouvait y avoir à l'école, il y avait quand même ça. Moi, la manière aussi dont j'analyse le fait que j'ai bien réussi à l'école et que mes frères et sœurs ont plutôt bien réussi aussi, en tout cas sur cette période-là, c'est tout le sens critique qui a été valorisé par mes parents vis-à-vis de nous, du simple fait que nous étions d'origine marocaine, berbère précisément, et que chez mes parents, pour mes parents, à la maison, il n'était pas question de parler français, par exemple. Il y avait vraiment cette idée, ah oui, je veux dire, on passait le pas de la porte, il n'y avait pas un mot de français qui devait passer la porte. Il y avait, le français, c'était pour l'école, pas même d'ailleurs pour la rue. La rue, de toute façon, on était entre nous et tout, parfois on parlait tamazirt, enfin, moi je viens du Rif, hein, comme je l'ai dit, on parle tamazirt. Il y avait beaucoup de gens du Rif là où je vivais, donc même dans la rue, en fait, on parlait tamazirt. Mais je veux dire, mes parents, voilà, pour eux, c'était... alors, ils ne l'ont pas forcément expliqué, parfois même, certaines d'entre nous ont pu trouver ça bizarre, ont pu trouver ça parfois peut-être violent, en fait, d'imposer ça, qui peut aussi mener, alors je dis pas que c'est forcément bien, parce que ça, je sais aussi à quel point ça peut mener à des comportements, alors peut-être pas schizophrènes, mais en tout cas des comportements qui peuvent être qui peuvent entraîner de la souffrance psychique. Le fait de dire « l'école, c'est l'école, la maison, c'est la maison ». Quand tu es à l'école, tu adoptes tel comportement pour te plier finalement à ce qu'attend de toi l'institution scolaire. Mais à la maison, voilà, tu fais le contraire. Et c'est vrai que pour un enfant, ça peut être compliqué à porter. Ce truc vraiment schizophrénique, en fait. L'école, l'institution...
Mais c'est parce que c'était par rapport à la langue, parce que...
Par rapport à tout. D'accord. La langue, la religion, la culture de manière générale. Il y avait vraiment, chez mes parents, cette idée que... Chez mes parents, et puis la famille élargie, et puis le quartier aussi, parce que, alors, nous, on n'était pas tout seuls. Vraiment, j'ai eu la chance de grandir dans un quartier où les familles se connaissaient, où... Comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, il y a beaucoup de gens du Rif, par exemple, qui habitaient à l'île Sud, aussi parce que c'était la structure migratoire qui le voulait. C'est-à-dire qu'on a été chercher au Maroc des gens du même village et puis on les a fait travailler dans la même usine ou alors dans les mines. Et du coup, on a installé les familles à peu près au même endroit. Donc, il y a une explication à tout ça. Mais en tout cas, il y avait cette idée dans cette communauté, dans ce quartier, en tout cas chez mes parents, dans notre famille, cette idée que voilà, il faut bien dissocier. Et donc, il y avait un discours très valorisant vis-à-vis de l'école chez mes parents. Donc, il fallait réussir à l'école.
Oui.
Et l'institution scolaire, c'était important. Parce qu'aussi, à ce moment-là, plus qu'aujourd'hui, il y avait l'idée que l'école, ça pouvait être vraiment... un moteur d'ascension sociale. Mon père était ouvrier de nuit, il ne voulait pas que ses enfants soient travaillent à l'usine, en fait, parce qu'évidemment, voilà, il y avait des problèmes de santé. Bon, voilà, c'était la condition ouvrière, quoi. Donc, évidemment, il ne voulait pas ça pour ses enfants. Et que l'école, en fait, dans son esprit à l'époque, nous permettrait de ne pas vivre la même condition, de ne pas être dans les mêmes conditions matérielles d'existence, quoi. Et du coup, il y avait cette grande valorisation de l'espace scolaire et de tout ce que ça pouvait apporter pour nous, pour notre avenir, et en même temps, une farouche défense de ce qu'on était et de nos héritages et de l'islam et de la langue et encore une fois de la culture. Alors moi, il n'y a pas une année où je ne suis pas rentrée au Maroc pendant un mois et demi, quasiment un mois et demi. Aujourd'hui, on serait incapable, même financièrement, tu vois, de permettre à nos enfants de passer un mois et demi dans les montagnes du Maroc. Pour nous, à l'époque, c'était année après année. J'ai pu m'en plaindre. D'ailleurs, pour tout dire, quand je rentrais de vacances et que commençait la rentrée, comme tout le monde, et encore aujourd'hui, tu dois raconter tes vacances. Moi, je m'inventais des vacances, par exemple. Je n'assumais pas d'être rentrée au bled. Pour moi, c'était pas des vacances. C'était vraiment très dévalorisant. Les vacances au bled n'étaient pas considérées comme en tout cas par moi. Et je pense qu'on est beaucoup à c'est partager. Ça.
Voilà. Pas comme alors normal. Que nos parents, justement, comme tu disais, se saignaient quand même pour pouvoir nous offrir ces vacances étaient des vacances quand même.
Mais un génie chez nos parents. C'est-à-dire que pour nos parents. D'ailleurs, je le dis à un moment dans le livre, les ministres, les différents ministres de l'Éducation nationale qui viennent chercher des poux dans la tête des femmes voilées, notamment, pour leur dire non, mais les sorties scolaires et tout. Quand tu vois la tête des sorties scolaires, c'est pour aller au zoo municipal, dans un pauvre truc. Et en fait, mais t'as envie de leur dire, mais nos parents, ils nous emmenaient dans les montagnes d'Afrique pendant un mois et demi. C'était dépaysement, c'était séjour linguistique.
Exactement.
C'était, séjour culturel. Enfin, je veux dire, mais vous seriez incapable, avec vos pauvres petits budgets d'éducation nationale, d'offrir ça aujourd'hui à nos enfants. Donc c'est bon. Pour tout ce qui est épanouissement de nos enfants en termes culturels, linguistiques, en termes d'ouverture, l'ouverture de leur, oui, leurs imaginaires, de l'imaginaire, des savoirs, effectivement. Bon, voilà, nos parents ont su gérer ça, ils ont su nous apporter ça, quoi. Donc voilà, pour dire, c'était pas une tension pour moi. Moi, j'ai très bien vécu cette dichotomie, en fait, entre l'école et ce qui se passe dans l'école, et ce qu'on valorise dans l'école, et puis ce qui se passe à la maison, ce qu'on valorise à la maison. Je sais que d'autres ont très mal vécu cette tension-là. Je pense que mes parents nous ont valorisé, en fait, ça en termes stratégiques. Mm-hmm. C'est-à-dire que vraiment, le fait de ne pas baisser la tête, mais en même temps, on n'était pas chez nous ici. Mm-hmm. Donc quand on était à l'école, il ne fallait pas... Voilà,
Pas se faire remarquer,
etc. Oui, certes, mais en même temps, pas parce qu'on était inférieur ou parce que parce qu'on aurait quelque chose d'honteux chez nous. Absolument pas. C'est bien stratégiquement parce qu'on n'était pas dans notre pays, qu'on était immigrés, et que en fait on risquait des représailles, on risquait d'être déclassé, etc. Et ça a été dit. Ça a été explicité comme tel. Tu vois, il n'y a pas eu... Parce que je sais que certains parents, lorsqu'ils parlaient leur langue maternelle à leurs enfants, il y a une honte dans la exactement. Manière de parler, parce qu'on baisse de ton.
Et puis il y a des parents qui n'ont pas parlé leur langue maternelle
absolument.
À leurs enfants.
Et qui ont même dit à leurs enfants, ne parlez pas. Donc, et ça, l'enfant le sent. Il y a rien de tout ça chez moi, quoi. Chez moi, il y avait absolument pas de complexe d'infériorité, absolument pas. Il y avait au contraire une lucidité sur ce que nous étions, sur là d'où nous venions, pourquoi nous étions là, etc. Et ça, je pense que ça a beaucoup 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 aidé. En tout cas, moi, je sais que mon sens critique, il vient de là.
D'accord.
Il vient de cette mise en tension entre l'institution et l'espace familial. Et cette conscientisation très tôt, en fait, qu'il y avait cette tension-là et que finalement on pouvait en ressortir quelque chose, en fait, et en faire quelque chose.
On peut avoir une autre langue à la maison et avoir une langue à l'extérieur à l'école et réussir à l'école.
Absolument.
Ouais. Parler parfaitement le français.
Absolument.
Parce que souvent aussi, dans le système scolaire, on a dit aux parents, ne parlez pas votre langue parce que ça risque de poser problème à l'enfant au niveau de la connaissance, au niveau de l'intégration des langues aussi.
Oui, d'ailleurs, c'est une des raisons principales, en réalité, de la création du collectif de mères de Bagnolet. Et dans les années 2000, en fait, j'ai eu à organiser un temps sur les langues. Alors, c'était un temps qui s'appelait l'écho des langues, et c'était un truc national porté par les institutions. Et à cette occasion, on avait fait venir des spécialistes. Alors oui, il y avait un contexte, c'était le rapport Benisti qui venait de sortir. Et alors, je crois que c'était 2004-2005, c'était dans ça accompagnait toute cette période Sarkozy, en fait, très dure de Sarkozy. Et en fait, dans ce rapport, donc c'était un député, donc Benisti, qui affirmait que le bilinguisme et le multilinguisme pouvaient être facteurs d'handicap et de retard scolaire. Voilà.
On en avait parlé dans un des épisodes, justement, de ce rapport. Et un rapport, quand même, qui est assez impressionnant.
Ouais.
Parce que c'est limite des termes de guerre, en fait.
Oui, absolument. C'est pour ça que je dis qu'il y a un contexte, en fait, à l'époque. C'est un contexte très dur où, en février 2005, il y avait une proposition de loi qui était discutée à l'Assemblée nationale sur l'aspect positif de la colonisation, par exemple.
Oui.
Enfin, pour donner un petit peu des éléments. Bon, depuis, ça ne s'est pas complètement arrangé, le contexte français. Hein. Mais je veux dire, il y avait ce contexte-là à l'époque... très très stigmatisant pour les parents issus d'immigration postcoloniale et leurs enfants. Ça, à l'époque, bon, c'est la révolte populaire après la mort de Ziad et Bouna. C'est l'époque où on mobilise beaucoup cette expression parents démissionnaires. Donc voilà, c'est tout un délire, quoi, à l'époque. Voilà, où donc encore une fois, de fortes stigmatisations. Et donc moi, à cette occasion-là, donc j'avais pas d'enfants, mais là j'ai eu contact avec les problématiques autour du bilinguisme et du multilinguisme. Bon, déjà dire effectivement que le propos de Benisti s'adresse pas aux personnes d'origine finlandaise ou aux enfants
anglophones,
ou même aux enfants qu'on voit. Moi, par exemple, j'habite à Bagnolet. Bon, il y a un parc commun à Bagnolet à Montreuil, le parc de Lanoux, où en fait on voit des parents qui n'ont pas forcément d'origine anglaise ou espagnole ou italienne, parlaient le dimanche anglais et exclusivement anglais à leurs enfants pour leur permettre voilà, d'avoir plus de chances de réussir à l'école, etc. plus tard. Et ça ne pose évidemment pas de problème à Benisti ni à personne. Donc là, il s'agissait bien de viser exclusivement les langues de l'immigration, en réalité. Et en réalité, ce n'était pas tant les langues qui étaient visées.
C'était les populations, la
personne. C'est les locuteurs et les locutrices. C'est-à-dire que, évidemment, que si toi et moi parlions finlandais, encore une fois, anglais ou allemand à nos enfants, en réalité, et si c'était notre langue maternelle, l'anglais, l'allemand, bon, je suis sur un truc surréaliste, hein, mais l'anglais et l'allemand et le finlandais, c'est stigmatisé. En fait, c'est pas le Wolof, le Bambara, le tamazight en soi, en fait, qui est problématique. Si ces langues-là sont qualifiées de dialectes ou de... C'est pas vraiment des langues, c'est bien en lien avec, avec les locuteurs et les locutrices qui, donc, qui sont stigmatisés et donc, voilà, c'est renvoyé sur leur langue, quoi. Moi, je me disais, du coup, ah, mais quand j'aurai des enfants... ça va pas se passer comme ça. Là, je viens de voir que justement, ce qu'ont fait mes parents, c'était super, en fait. Et c'est vraiment à l'âge adulte que...
Tu t'es rendu compte
voilà,
de tout ça.
Voilà, de ce que m'ont permis mes parents, sans forcément, encore une fois, l'avoir théorisé et tout. Hein. Moi, mes parents, ils n'ont pas été à l'école et tout. Mais en tout cas, c'était très clair dans leur tête, quoi. C'est très précis et ils avaient un plan, quoi. Quand Et moi, je voulais avoir à peu près le même plan. C'est-à-dire, voilà, moi, quand j'aurai des enfants, voilà, je veux ne pas avoir honte de ce que je suis. Alors, que je leur transmette ou pas, d'ailleurs. Moi, je ne suis pas du tout sur des injonctions presque inverses, en fait, vis-à-vis des populations qui viennent de notamment d'Afrique, en tout cas des pays anciennement colonisés. Moi, je ne suis pas du tout sur des injonctions de « il faut parler sa langue maternelle à son enfant » parce que je sais aussi les dégâts psychiques que ça peut causer de dire à des personnes qui ne parlent pas forcément leur langue maternelle parce que leurs parents ne leur ont pas transmis, aussi parce qu'il y a, il peut y avoir aussi des complexes qui ont été développés, etc. Moi, je sais ce que c'est cette injonction de dire, mais
toi,
t'as pas honte
pas, voilà,
oui, que l'on parle notre langue ou pas. À partir du moment où on veut transmettre ça à son enfant, il faut pouvoir créer les conditions pour que la transmission se fasse sans trembler. Enfin, il y a des expressions comme ça que j'utilise dans le livre. Voilà, c'est sans trembler, sans complexe d'infériorité, pour que l'enfant ne sente pas l'hésitation, en fait. Parce qu'il y a des parents qui parlent, ce que je disais tout à l'heure, il y a des parents qui parlent leur langue à leur enfant, mais par exemple, le fait de passer à l'extérieur de la maison, de l'appartement, le ton de voix baisse.
Non, mais c'est ça.
Voilà, on fait attention, il ne faut pas que les voisins entendent, etc. Et ça, en fait, en réalité, c'est ça qui est stigmatisant pour l'enfant. Parce que tu sais quand même ce que disait Benisti à l'époque, parce qu'il s'appuyait sur des pseudo-travaux scientifiques. En réalité, les travaux scientifiques en tant que tels n'étaient pas si pseudo que ça. C'est l'analyse que lui
faisait.
Voilà, et les enseignements qu'il en tirait. Mais sur l'idée, par exemple, que nos enfants, les enfants de classe populaire et descendants d'immigration postcoloniale, aient plus de difficultés dans la langue, en termes d'agilité. De... Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, je veux dire, voilà, il faut voir aussi les travaux scientifiques là-dessus. Il y a quelque chose, oui, c'est vrai, nos enfants, alors, parce qu'ils sont de classe populaire et parce qu'ils sont descendants de l'immigration postcoloniale, ont plus de difficultés dans l'apprentissage de la langue. C'est vrai. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont bilingues, ce n'est pas parce qu'ils parlent plusieurs langues et qu'ils parlent la langue maternelle à la maison. C'est parce que leur langue maternelle a été stigmatisé. C'est ça qui crée le retard, puisqu'il faut parler de retard scolaire. C'est ça qui crée la difficulté, en fait, chez l'enfant. L'enfant, même très petit, hein, ça a été prouvé, même bébé, il ressent la honte, en fait, dans la voix, dans le tressaillement, etc.
Par la connaissance du stéréotype aussi, on en parlait avec une invitée la dernière fois qui est psychologue et qui expliquait comment, en fait, on intègre ces stéréotypes, enfin, les préjugés que les autres ont de nous, et comment on arrive aussi, nous, à se restreindre et à pas pouvoir apprendre correctement.
Absolument, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un effet, effectivement, de mésestime de soi, de honte de soi, effectivement. Alors, voilà, ça, c'était avant d'avoir mes enfants. Donc, voilà, j'ai été amenée à réfléchir à ces questions de langue, on va dire, en tant que professionnelle. Et en fait, ce qui s'est passé pour la petite anecdote, mais que je raconte dans le livre, hein, c'est que moi, je parle tamazight, arabe, à ma fille, donc qui vient de naître à l'époque. C'était en 2012-2013. Et en fait, il y a eu une réunion au sein de la crèche. Bon, déjà, il y avait une culpabilité par rapport à... en tout cas, que cherche à...
à entretenir, non ?
Ouais, la crèche sur les femmes, et toutes les femmes, hein, franchement, qui travaillent et qui laissent leur bébé à la crèche. Il y a un truc autour de si t'es pas contente, te plains pas, parce que si t'es pas contente, tu gardes ton enfant, en fait. Donc, déjà, tu laisses ton enfant, tu l'abandonnes alors qu'il est bébé, et donc, ne viens pas en plus nous casser la tête, nous, qui nous occupons de ton enfant. Quoi. Donc, il y avait déjà ce petit contexte-là, et c'est vrai qu'il y a eu une réunion qui s'est organisée, on m'en a fait part, et donc il y a une puéricultrice qui vient me voir un peu gênée, et qui me parle donc de la nécessité d'harmoniser l'environnement de ma fille. Alors, pourquoi, c'est
comment
quoi
harmoniser l'environnement de ta fille, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, du coup, j'essaie de comprendre, et là, bon...
Quoi, elle est venue chez toi avant pour voir comment ça se passait?
Non, elle m'a dit... un peu gênée quand même, hein, mais elle a quand même osé me dire que, en fait, elle avait remarqué, l'équipe avait remarqué, donc elle m'a parlé du coup de cette réunion, que l'équipe avait remarqué que ma fille était agitée, qu'elle était, ça se voyait qu'elle était mal.
D'accord.
Et que, après cette réunion, donc grâce aux échanges entre professionnels lors de cette réunion, elles en ont conclu que c'est parce qu'elle était, elle n'évoluait pas dans un environnement harmonieux. Et notamment du fait que je parlais arabe, alors que, voilà, au sein de la crèche, on parlait français. Et donc, voilà, et alors ce que je lui avais répondu, alors moi, quand je l'ai retranscrit, les gens qui ont lu le livre me disent, ah, c'est bien, tu l'as fait passer avec humour. Non, moi, quand je lui ai répondu, c'était pas du tout sur le ton de l'humour. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous comptez faire pour harmoniser? Est-ce que vous comptez apprendre l'arabe? Et là, franchement, je l'ai stoppé dans son élan. Arrêtez de me casser la tête avec cette histoire de... Voilà, parce que je pense que je l'ai renvoyé quand même à quelque chose qui était très, très problématique. Mais voilà, il y avait quand même ce truc-là de te mettre la pression, en fait, pour que tu ne parles pas ta langue maternelle à ton enfant. Bon, moi, il se trouve que j'étais déjà conscientisée sur ces questions-là. C'est pour ça que je te racontais, en fait, toute cette période, une dizaine d'années plus tôt, où j'avais, en fait... bosser en fait sur ces questions, donc je savais moi l'imposture en fait autour du fait de non mais ne parlez pas votre langue maternelle, ça va causer de la désharmonie en tout cas du retard, etc.
Donc
quand elle m'a
quand
cette puéricultrice m'a parlé, moi j'avais ça en tête, donc j'avais des ressources en fait pour lui répondre, qu'est-ce que tu comptes faire, est-ce que tu comptes aller apprendre l'arabe, quoi. Mais je sais que beaucoup de parents malheureusement n'ont pas ces ressources là et du coup qui peuvent se dire pour protéger leur enfant en fait. Pas forcément parce que c'est pas forcément des personnes, je parle des mères en particulier, qui vont avoir honte de ce qu'elles sont ou de leur langue,
non.
Mais simplement, elles vont effectivement penser
au bien-être de l'enfant avant tout.
Et se dire, en fait, oui, effectivement, ça va stigmatiser l'enfant. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire de l'arabe, qu'est-ce qu'il va faire du wolof, etc. dans sa scolarité. Ce qui compte, c'est le français et l'anglais, etc. Et en réalité, voilà ce que je montre dans le livre, mais en m'appuyant sur des travaux de recherche là-dessus, sur l'impact, en fait, sur la santé mentale de l'enfant, c'est que toutes ces petites hontes-là, toutes ces petites stigmatisations, surtout quand c'est dès le plus jeune âge, dès la naissance en réalité, cumulées, en fait, participent à détruire psychiquement et physiquement nos enfants. Et donc... dire, et ça c'est ça qui est important, de dire aux parents, si vous voulez protéger vos enfants, c'est pas la bonne stratégie d'être dans cette appréhension, dans ce déni, etc. Parce que voilà, c'est le meilleur moyen en réalité de détruire psychiquement vos enfants. Et comme je sais que beaucoup de parents sont dans des enjeux de réussite scolaire, ce que je comprends moi-même, parlons de réussite. Et disons que plus on sera à l'aise avec nos héritages, quels qu'ils soient, et mieux l'enfant va réussir scolairement.
Tout à fait.
Après, moi, je veux aussi le bien-être et le bonheur des enfants. C'est ça, en réalité, l'enjeu principal. Mais il y a aussi cet enjeu de réussite que je ne mets pas de côté. Moi, je comprends. Voilà, moi aussi, je veux que mes enfants réussissent à l'école, qu'ils fassent des super métiers, etc. Donc, je sais que ce n'est pas rien.
Tout simplement.
Il y a le bonheur, mais il y a aussi, je pense, quand on est immigré et descendant d'immigration. Moi, je dis souvent, parce que dans certains milieux où j'évolue, on me renvoie l'idée que la réussite, finalement, c'est très subjectif et qu'il n'y a pas de saut métier.
Oui.
Non, non, moi je suis immigrée, mm-hmm. moi-même, je ne suis pas née ici, moi je suis descendante de l'immigration. Moi je veux que mes enfants ils réussissent à l'école, ils soient premiers de leur classe, première de sa classe.
Tu vas faire comme ton papa.
Super notes. Non mais c'est ça, moi je veux qu'elle ait 20 sur 20, voilà, je veux
mais
qu'elle...
Mais la pauvre, arrête.
Non mais tu vois, ce que je veux dire c'est que non, moi le côté ouais. c'est pas grave, les notes c'est pas grave, etc. Non, moi c'est surtout, bon avec un petit peu d'ironie que je te dis ça, c'est avec de l'humour évidemment que je dis pas ma fille, c'est pas 20 sur 20, etc. La pauvre.
Non mais il faut le préciser.
Non, donc... tu sais pourquoi je te dis ça, c'est en réaction en fait avec des gens qui nous renvoient ça, l'idée ouais. que la réussite c'est subjectif, etc.
Oh, bien sûr, mais c'est pour dire mais non mais c'est pas grave.
Et... non mais c'est surtout que leurs enfants.
Voilà, c'est ça, c'est pas la
mais
même chose.
Mais c'est pas pareil. Exactement. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont ce discours-là, notamment à pour gauche, nous. Mais par, pour nous.
Voilà.
Par contre, leurs enfants, mais voilà, ils préféraient se couper un doigt que d'accepter qu'ils soient orientés au collège vers un CAP,
exactement,
par exemple. Alors que
ça.
Pour nous, non, nos enfants, ils peuvent... Et alors, CAP, c'est bon, le travail manuel, c'est très épanouissant.
Il n'y a pas un CAP des eaux, quelque chose comme
voilà,
ça. Très
exactement.
Voilà, c'est ça.
Parce que moi, exactement. Donc, non, non, donc moi, c'est, quand je dis ça, alors c'est un peu provocateur, en fait. C'est pour leur dire, non, non, moi, je veux comme toi.
Voilà.
Toi, tu veux que tes enfants ils fassent un bac général. Moi, c'est pareil, en fait.
Fait.
Voilà. Et nous, on a des enjeux par rapport à l'école. Nous, on
exactement.
Sait ce que c'est l'école. On sait aussi que l'école, ça nous a permis aussi de nous extraire d'une condition ouvrière.
Mmh.
Voilà, nos enfants et nos parents, pour l'essentiel, ils sont, pour beaucoup d'entre nous, ils sont ouvriers, ouvrières, femmes de ménage. Voilà. C'est-à-dire que ça leur a cassé le dos.
Exactement.
Donc nous, l'histoire de « oui, il n'y a pas de saut métier », on n'y croit pas du tout. Nous, on a vu nos mères se lever à 4h du matin, nos pères travailler la nuit, etc.
Exactement.
Et vraiment être brisés, quoi. Et brisés mentalement, brisés physiquement. Donc on ne veut pas ça pour nous-mêmes et on ne veut pas ça pour nos gosses. Donc voilà. Donc pour moi, c'est important de dire ça. Donc ok, acceptons cette idée de la réussite scolaire. Donc moi, quand je parle aux parents, je leur parle, je dis « oui, vous avez raison, ok, parlons de réussite scolaire ». Mais même si on ne prend que la réussite scolaire et pas forcément le bien-être de l'enfant, etc., même sur cet enjeu-là de la réussite, c'est pas la bonne stratégie d'être dans le déni par rapport à ses héritages vis-à-vis de son enfant. C'est pas la bonne stratégie d'avoir honte de ce qu'on est.
Mm-hmm.
C'est pas la bonne stratégie d'extraire son enfant de son espace culturel, même territorial, du quartier, etc., d'éviter l'école de secteur pour le mettre dans le privé. C'est pas la bonne stratégie.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que nous-mêmes, on peut, alors pas forcément moi, mais beaucoup de gens de nos générations, les personnes adultes, peuvent témoigner à quel point ça a été destructeur.
Mm-hmm.
Et surtout, moi, ce que je dis, c'est qu'on peut faire autre chose, en fait.
Mm-hmm.
On peut imaginer autre chose. Il y a d'autres stratégies possibles. Voilà, il y a d'autres choses à faire, en fait, à réfléchir pour essayer de sortir de ce dilemme-là, de transmettre ce que nous sommes, nos héritages, et puis finalement de la dignité, en fait. Ne pas avoir honte de soi, c'est transmettre cette dignité. Et puis de concilier ça avec la réussite sociale, quoi. La réussite scolaire et la réussite sociale. Et on peut concilier les deux. Nous ne sommes pas condamnés à vivre ce dilemme-là, en fait. Il y a des choses à inventer. À inventer, d'ailleurs, pas complètement... pas totalement, puisque je disais, nos parents, ils ont fait des choses. Hein, ils ont eux-mêmes été condamnés à concilier. Donc, il y a des choses à prendre aussi chez nos parents. Il ne faut pas renvoyer ça, nos parents, avec l'eau du bain, en disant, mais de toute façon, ils ont fait n'importe quoi, ils ont rasé les murs et tout. Ça, c'est faux. Ils n'ont pas
rasé les murs. Ils ont eu aussi
les murs.
Ils ont eu aussi...
ils ont libéré l'Afrique.
Exactement.
Mais c'est pour dire, en tout cas, que nos parents, ils se sont battus. Ce n'est pas vrai, cette idée de docilité ou de soumission, etc. Ils se sont... toujours battu. Et donc, il y a quelque chose là à aller chercher, à aller puiser, en fait. C'est une ressource pour nous.
Vous venez d'écouter la première partie de notre rencontre avec Fatima Ouassag. Nous vous donnons rendez-vous pour la suite et fin de cet épisode, ce lundi 21 décembre.
Si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous mettre 5 petites étoiles.
5,
ainsi
5,
que
5.
De partager autour de vous, que ce soit sur Twitter, Facebook.
Et sur Instagram, on est encore sur Instagram. Et si vous avez des questions ou des commentaires, nous serons ravis d'échanger avec vous sur les enfants du bruit et de l'odeur, tout en attaché, @gmail.com.
À très bientôt, Ulrich.
En tout cas.
Moi, quand je serai grande, je serai actrice.